start, puis c'est quand on veut. Alors, salut les extraterriens, j'espère que vous allez bien en cette période un petit peu spéciale de confinement. Comme vous le savez, je fais des petits épisodes hors série. Le but de ces hors séries, c'est d'aller voir les personnes qui m'ont inspiré depuis un an que j'ai commencé ce podcast. Et aujourd'hui, c'est un invité que vous connaissez déjà. Et d'ailleurs, je sais que vous avez beaucoup aimé l'épisode. L'invité du jour mange plus que vous en un repas que vous 3 jours avant votre marathon. C'est aussi le vice-champion de France de rameur indoor dans la catégorie vétéran, à préciser parce que c'est un papy. On l'appelle aussi le dinosaure de YouTube. Comment vas-tu, Rudy ?
Eh ben, ça va très bien. Et c'est vrai que j'avais pas pensé que c'était catégorie vétéran. En fait, c'était la catégorie 30-39 ans. En plus, t'étais venu me supporter le lendemain pour le relais avec le club d'Evian. Ouais. Et c'est vrai que j'avais pas pensé que c'était cette catégorie vétéran. Je me pensais encore jeune. Et finalement, finalement merde quoi.
Mais ça n'enlève rien à ton titre. D'ailleurs, est-ce que t'as regardé si t'avais été dans la catégorie normale, quelle place t'aurais fait?
Ouais, je crois que je faisais top 10. Je crois que je faisais je faisais top 10, mais niveau mondial et niveau français, ouais. Je crois que je faisais 4 ou 5.
Ouais, d'accord. Ouais, donc vraiment pas mal. T'as fait, du coup, en vétéran, t'as fait deuxième français et quatrième mondial, quoi.
Voilà, ouais, c'est ça. Bon, c'est pas mal. Après, je me suis entraîné toute l'année au rameur, donc c'était un des objectifs aussi de la saison. Étant donné qu'à la base, je fais de la muscu, le rameur, c'est une épreuve qu'on a commencé à mettre en place dans une compétition que j'organise, que sont les Super Physique Games. Et de fil en aiguille, je me suis aperçu que j'étais plutôt bon, que j'étais plutôt fait pour. Et donc, je me suis un peu acharné dessus jusqu'à ce résultat. Et puis depuis, je continue une fois par semaine à m'entraîner au rameur pendant que beaucoup ont abandonné.
c'est pas l'agrès le plus passionnant. Hein. Tu me diras, dans la muscu, il y a plus fun. Hein. Tu te pètes un peu le dos, ça fait mal au cul.
Ça crève. En fait, c'est hyper cardio. On s'en rend pas compte avant d'en faire. Mais c'est plus cardio que la course à pied, c'est beaucoup plus cardio que le vélo. Quand même, t'as pratiquement l'intégralité du corps qui est en jeu et qui bouge. En fait, ça te crève vraiment. Après une séance de rameur, t'es vraiment rincé, quoi. C'est vraiment le truc. Pour ça, ceux qui cherchent, par exemple, un appareil pour faire du cardio chez eux, etc., acheter un rameur. Rien qu'à même d'aller doucement, vous allez sentir que c'est c'est horrible. C'est la mort, comme on dit. Le rameur, c'est la mort.
Ouais, je suis bien d'accord. Et du coup, à quand le marathon en rameur indoor?
Ah non, alors, il y en a qui font l'épreuve du marathon en rameur indoor, à savoir 42 km. Moi, c'est pas du tout mon truc. J'ai aussi fait, tiens, je t'avais pas dit, il y a eu le championnat du monde et de France en ligne du 1000 mètres au rameur, auquel j'ai participé aussi. Alors, je m'étais pas préparé comme aux 500 mètres, où j'avais vraiment suivi une préparation spécifique. Et donc là, j'ai fini 3e français. Donc pareil, en catégorie vétéran. Mais donc, et par contre, niveau mondial, là, j'ai pris une tôle, je crois que j'ai fini dans les 20e. Mais ce qui montre bien que je suis plus fait, en règle générale, pour les efforts de résistance un peu courtes, comme en athlétisme, par exemple, 400 mètres, que dès que ça s'allonge, j'ai pas la caisse suffisante actuellement, quoi.
Ah mais c'est aussi aussi ta musculature, quoi. T'as vu les muscles, ça pompe de l'oxygène, ça s'oxyde beaucoup plus vite, donc c'est normal.
Ouais, et puis ça gonfle. En fait, un des trucs qui se passe, c'est que plus t'as de muscles et plus tu gonfles à l'effort. Et même si le cardio veut bien, là, c'est quand j'avais fait mon 1000 mètres, c'était début mars, je crois. Début mars, du 4 au 8 mars de mémoire. Bah en fait, ce qui m'a limité, c'est pas le souffle. En fait, c'est les cuisses qui brûlent, qui gonflent. Et en fait, après, je pouvais plus marcher. Quand je me suis relevé pendant 10 minutes, je ne pouvais plus plier les jambes. En fait, j'étais debout, obligé de me tenir. Je ne pouvais plus bouger les jambes. Tellement ça, c'était congestionné. Mais vraiment une sensation incroyable, quoi. En fait, on n'imagine pas. Alors qu'au début, j'étais parti dans ma tête pour battre le record de France. Je me dis, je pars sur le rythme. C'est pas très rapide, comme je pensais. Et en fait, jusqu'à 600 mètres, ça allait. Et à partir de 600 mètres, donc à peu près après. Ça fait quoi, 2 minutes d'effort, un peu moins. Ouais. Là, ça a commencé vraiment à gonfler. Et comme j'avais pas l'entraînement pour, j'ai pas pu résister plus que ça à cette brûlure, pas insupportable, mais pas loin.
Ouais, quand ça monte dans le lactique, ça fait mal. Hein. Dès que ça arrive dans les jambes, ça brûle, ça pique. Et d'ailleurs, moi, j'ai un souvenir. J'ai un souvenir. Alors là, c'est plus pour du cardio, mais quand j'étais venu te voir, j'étais dans les gradins et je voyais il y avait des bassines derrière les. Derrière les rameurs, et du coup, je demande à un des mecs de ton club, je fais, mais dis donc, c'est bizarre, pourquoi il y a des bassines derrière? Et à la fin du, je crois que c'était des 500 mètres ou des 1000 mètres, je sais plus, et j'en ai vu deux ou trois se retourner, prendre la bassine et rendre leur déjeuner, quoi.
Ah ouais, non, mais c'est sûr qu'un effort de 500 mètres, bon, pour moi, le 500 mètres, c'est vraiment le pire, dans le sens où, ouais, c'est comme un 400 mètres en athlète, donc tu finis, t'es vraiment rincé. Tu mets, si tu forces à fond, tu mets bien 20 minutes à t'en remettre. À 1000 mètres, c'est moins balèze, mais tu finis quand même vraiment rincé, quoi. Et c'est sûr que si t'as mangé avant, t'es mal alimenté ou t'es un peu sensible au niveau intestinal, hein, tu peux tout rendre. D'ailleurs, j'avais entendu que tu devais reprendre la course à pied, le triathlon, etc. Est-ce qu'avant le confinement, t'avais pu reprendre? Ou est-ce que ce sont des paroles en l'air, monsieur?
Alors, écoute, figure-toi que je me suis remis à courir, là, en ce moment. Je fais une à deux séances de footing par semaine. Je recommence petit, tu vois, j'ai fait des 8 bornes, 10 bornes, je monte pas plus de 11. Je travaille ma foulée, figure-toi, j'apprends à courir médio-pied petit à petit. Je sens que sur les genoux, ça travaille parce que mine de rien, j'ai quand même pris beaucoup de poids grâce à toi cette année.
C'est moi qui ai rempli ton assiette.
Bah, grâce à toi, je mange plus et j'ai plus la niaque quand j'ai un entraînement, tu vois. Donc, je sens que j'ai pas le même physique, je sens que ça va être compliqué, que je vais devoir sûrement faire un dilemme entre est-ce que je me remets à fond au tri ou est-ce qu'au contraire j'essaye de maintenir un équilibre et de faire juste de la course à pied, un peu comme toi, tu vas faire du rameur ou du vélo pour entretenir le cœur. J'ai pas fait encore vraiment mon choix. Là, le confinement, c'est parfait pour repousser un peu les échéances et ne pas faire de choix. Donc, figure-toi, qu'est-ce que je fais? Je fais en ce moment beaucoup d'entraînement de crossfit au poids du corps. Et là, je me dégomme, là, je m'en mets plein la gueule. Donc, franchement, je me régale.
Ouais, mais en plus, t'as peut-être du bol parce que je sais pas quel temps il fait chez toi, mais nous, sur Annecy, il fait super beau là depuis un petit moment. Est-ce qu'à Paris, c'est un peu la même chose?
Ah, là, ça fait une semaine que c'est grand bleu, donc idéal pour aller s'entraîner et pour aller faire des petits footings dehors, ouais.
Ah, bah c'est comme nous, donc ouais, donc tu te régales, quoi. Là, t'es dehors et tout. T'as pas loin de chez toi, évidemment, mais au moins t'es dehors et tu peux profiter de ce beau temps. Le pire, là, c'est si tu peux pas en profiter, là, tu deviens peut-être fou, hein.
Ouais, bah moi, heureusement, nous, chez nous, on a une petite terrasse, un petit jardin. Mais là, j'ai des potes célibataires en studio en plein milieu de Paris. Je peux te dire que eux, ils m'envoient des messages tous les soirs et je comprends qu'ils sont en train de devenir fous, les pauvres. Mais surtout pour ceux qui sont un peu sportifs, là, c'est un peu compliqué, ouais. Toi, d'ailleurs, comment tu t'entraînes là en ce moment?
Moi, comme tu le sais peut-être, je fais pas mal de formations en ligne, en fait. Donc, tout ce qui est formation super physique. Puis je prépare pas mal de trucs là, je me suis un peu remotivé sur quelques projets dont on parlera peut-être hors antenne, mais ouais, donc en fait moi je me rends quand même à ma salle de sport qui est à 5 minutes de chez moi pour aller tourner mes vidéos pour la formation super physique, et donc bah j'en profite en même temps pour m'entraîner, en fait. C'est juste que j'ai fermé ma salle au public, donc tous ceux qui étaient inscrits, j'ai dit bah voilà, c'est confinement, donc restez chez vous, et puis voilà. En fait j'y vais tout seul avec ma caméra, après j'ai l'habitude de me filmer, donc c'est pas très compliqué. Et après, bah, je vais faire, j'envoie tout par internet à mon associé, donc Arnaud. Je sais pas si tu l'avais vu quand t'étais venu, mais ouais, donc à Arnaud. Et puis après, il fait les montages, et puis après, on met en ligne directement sur la formation. En fait, l'un des problèmes du confinement, en quelque sorte, pour tous ceux qui sont entrepreneurs et par exemple qui vivent du net, si t'as besoin de faire des trucs à l'extérieur, bah en fait, si tu le fais pas, tu perds. Tu vois, bah, si j'anime pas la formation super physique et que je dis voilà, je respecte le confinement à 100%, etc. Je vais pas. En même temps, je suis tout seul et c'est chez moi, donc c'est pas. Je m'estime pas hors la loi, tu vois. Mais tu vois, si on dit ouais, faut tout arrêter, l'État peut jamais compenser en fait la perte des centaines de personnes qui sont inscrites, donc qui vont se désinscrire parce que c'est le confinement et parce que je mets plus rien dessus. Et après, c'est pas dit qu'elles reviennent en fait. Donc c'est une perte qui est monstrueuse et on sait très bien que l'État va pas pouvoir compenser ça. Tu vas pas demain porter plainte après la fin de cette crise contre l'État et dire voilà, vous m'avez fait perdre je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. Ils vont dire non, mais attendez, on a rien à foutre, parce que là ils parlent, tu vois, je sais pas si t'as suivi, ils parlent de donner 1 500 euros. Ils sont bien gentils, mais non, mais ils sont, j'attends de voir les vraies mesures qui vont être prises, mais c'est vrai que il y a pas grand chose pour l'instant qui est censé rassurer les entrepreneurs qui sont à leur compte. Parce que ouais. Bon, tout le monde le sait, 1 500 euros, si t'as une entreprise depuis un petit moment, ça couvre rien, quoi. Ça couvre absolument rien. Ça couvre même pas. Je sais pas si t'as un crédit, par exemple. Imaginons que j'ai un crédit sur ma salle. Alors j'en ai pas, mais imagine que j'en ai un. Je peux faire le calcul. Elle me coûterait genre 600 ou 700 euros par mois. Donc déjà, t'as la moitié qui saute. Après, t'as des charges sociales, enfin plein de trucs. En fait, jamais tu t'en sors, quoi. Jamais tu t'en sors.
Bon, c'est clair. C'est clair, ouais. C'est clair. Ben moi, j'ai pas mal de potes là qui sont coach, soit qui ont des BPJEPS, soit qui ont d'autres formations. Et là, ouais, effectivement, il y en a quelques-uns qui ont réussi à garder des coachings à distance en visio, mais sinon, là, ils sont tous en train de pleurer. Hein,
parce ah bah bien sûr, mais ça, c'est des choses que ils vont. Moi, j'attends de voir les mesures prises par l'État, mais c'est sûr que là, ça fait 2 semaines, j'ai aucune demande de coaching à distance via mon site renicolia.com où je propose du coaching à distance. Ce qui est quand même ma principale activité, y a aucune demande. Et dans tous les élèves que j'ai, tu vois, il y a une perte à peu près de, je dirais pas 50%, mais t'as 40% de mes élèves qui ne peuvent plus s'entraîner parce qu'ils avaient aucun matos, aucun matériel chez eux. Ils allaient tous en salle, etc. Donc t'as 60% qui peut continuer et t'as une perte de 40%. Mais, cette perte sera pas compensée par l'État puisqu'il faut que tu perdes plus de 50% pour toucher 1500 euros. Donc, ce qu'ils comprennent, rien du tout. Donc, ouais, c'est sûr que là, c'est pas la période du coaching. Après, t'en as beaucoup sur les réseaux sociaux qui mettent des exemples de petits circuits, etc. On a même fait un podcast avec Superphysique, programme de la crise. Mais voilà, c'est mieux que rien. Mais si t'as vraiment zéro matériel, c'est sûr que c'est très très compliqué. Encore plus si tu peux pas aller dans un parc pour faire des tractions, des dips, des trucs comme ça. C'est sûr que voilà, c'est pas la période pour le coaching. Après, à l'inverse, c'est le moment où beaucoup de personnes ont envie de s'instruire, de lire, etc. Donc, ouais, à l'inverse, je vends entre guillemets beaucoup plus de livres, de formations, que ce soit sur rudycoya.com, que ce soit sur mon site Leadercast. Il y a plus de monde. Il y a plus de monde parce que les gens sont en attente, sont en recherche de contenu et sont prêts à bondir dès qu'il y aura plus confinement, quoi.
Ouais, bah c'est en plus c'est prouvé hein, par les économistes en temps de crise, les gens investissent dans une chose, c'est la formation. Donc.
Et toi, comment ça se passe le boulot d'ailleurs ? Alors là, tu peux vous avez mis la boîte en pause, j'imagine, ou ça continue ?
Si on fait un petit récap de mes activités, déjà au niveau du podcast, ça a bien chuté. Je le vois que le podcast finalement est dans les habitudes des gens, plutôt lors de leurs déplacements, lors de leur footing, lors des moments où ils sont en transport en commun. Parce que là, je parle avec beaucoup de podcasteurs et heureusement aussi beaucoup de podcasteurs plutôt business. Et eux ils ont pris un sacré coup derrière la tête. Moi, je vois qu'il y a effectivement il y a une belle chute de 25-30% là qui est arrivé sur les écoutes. Donc j'ai vendu quand même quelques contrats publicitaires dont je suis très content et dont les auditeurs qui ont essayé notamment avec Best Secret, tous ceux qui sont inscrits m'ont fait des super retours, donc je suis quand même content. Après pour Natural Athlete Club et tous les autres sites que j'ai, on voit que ça a beaucoup réduit, hein. Pareil, les recherches sur Google, on a beaucoup moins de trafic, beaucoup moins de gens qui achètent nos produits, donc c'est difficile. Notamment, on avait un site d'affiliation sur le voyage. Tu t'imagines bien que là, c'est compliqué. Et puis après, du coup, sur la boîte que j'ai rejoint, School Lab, où j'accompagne des entrepreneurs, c'est compliqué parce que effectivement généralement c'est des petites boîtes avec pas beaucoup de trésorerie et là qui prennent la crise de plein fouet, donc c'est triste parce que nous on essaye de les aider au maximum, mais c'est des gens qu'on prépare, on essaye de les préparer au pire. Donc nous on n'a pas arrêté l'activité parce qu'on essaye toujours d'éduquer des entrepreneurs, et tu vois on a lancé un énorme programme en ligne. D'ailleurs je sais pas si t'as vu mes dernières vidéos sur YouTube où je fais des présentations de comment séduire les investisseurs.
Donc tu fais ça sur quelle chaîne, sur Natural Athlete Club?
Non, du tout, c'est sur la chaîne du School Lab, du coup, de ma boîte, et on n'a pas encore mis en stand-by l'activité. On a même bien boosté pour tout l'accompagnement des petites entreprises parce qu'on sait qu'elles ont besoin de beaucoup d'aide, et on a lancé un programme digital qui marche très bien. Donc pour les entrepreneurs qui veulent lancer leur projet, on a un positionnement, effectivement lancer son projet en temps de crise, et ça marche bien, on voit que les gens se forment. Mais voilà, pour te dire un peu l'image globale, c'est C'est un petit peu compliqué, surtout notamment la relation avec les clients. Toi, tu n'as pas trop de clients entreprises, mais tu vois, moi, que ça soit avec mes sites, avec de l'affiliation ou que ça soit avec l'accompagnement des entrepreneurs, je vois que tout le monde te demande des décalages de factures, personne veut payer personne, tout le monde, tu vois, les clients avec qui tu n'avais pas une excellente relation, des fois tu vois que ça s'envenime un peu bêtement pour une phrase que t'as dit de travers ou parce que toi t'as aussi envie d'avoir de l'argent dans les caisses, quoi. Tout le monde a besoin de sécuriser, donc c'est un peu le branle-bas de combat partout. Je vois qu'il y a plein de sociétés de recouvrement là qui apparaissent. Bonjour, vous nous avez pas payé depuis 3 mois. Ouais, ben c'était dans les contrats. Ouais, mais là faut payer tout de suite. Écoute, j'ai un modèle où j'ai emprunté très peu d'argent à la banque et aujourd'hui j'ai un modèle qui est sain économiquement et qui est flexible aussi. J'ai pas trop de salariés en fixe. Les gens qui travaillent pour moi sont en freelance. Donc, j'ai cette sécurité là, mais je vois que autour de moi là à Paris, mes amis entrepreneurs, faut serrer la ceinture là. Puis au niveau des investissements, tous les clubs d'investissement, les fonds d'investissement dans les startups, tout ça, ils sont en train de tout geler parce qu'on parle d'une crise de, ils sont carrément en train de parler d'une crise d'un an et demi. Donc, niveau business, la vision n'est pas rose, mais je pense qu'il y aura des jours meilleurs après.
Oui, mais normalement, après, faut savoir. Combien de temps va durer le confinement? Moi, je lis pas mal de newsletters économiques et ils entendent tous à dire que si ça se prolonge après fin avril, on en a pour casser les prévisions. Après, ils peuvent toujours se tromper, mais on en a pour 4 à 5 ans à revenir là où on en était. Donc, mais c'est sûr que là, ça gèle tout le monde. Comme l'État n'annonce pas de mesures de couverture pour dire, vous serez payé tant, on vous garantit ce que vous gagnez avant, etc. pour reprendre ni vu ni connu. C'est sûr que tout le monde va geler les investissements. Moi aussi, là quand j'ai des trucs à investir, je dis j'attends un peu de voir ce que ça va donner pour pas prendre de risques. Là, c'est sûr que.
J'écoutais un podcast super intéressant et le mec disait qu'en fait, un confinement, c'est facile à décréter, mais un déconfinement, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, tu me disais, quand est-ce que ça va terminer? On sait pas trop et tout. Ça va sûrement être progressif et très long. Et puis là, ça a marqué un énorme coup d'arrêt. Et puis l'État va devoir à la fois injecter de l'argent pour les banques qui sont en train de trembler et à la fois injecter de l'argent dans l'économie réelle, ce qui va pas faire de mal. Donc, je pense que moi, j'aimerais pas être à la place des politiques là en ce moment parce qu'ils doivent avoir du boulot et ils doivent passer de sacrées nuits blanches pour essayer de se torturer le crâne et c'est pas plus mal d'ailleurs.
Pour savoir comment ça va relancer, quoi, et quels sous vont être donnés parce que c'est toujours pareil. Si tu donnes pas assez de sous à ceux qui étaient déjà un peu ric-rac, tu leur donnes pas suffisamment d'argent, en fait, ils coulent et donc, tu vois bien comment c'est, hein, la consommation appelle la consommation, si tout marche, t'as plus de possibilités d'entreprendre. S'il y a rien qui marche, pareil, les banques vont peut-être moins prêter d'argent, etc. Enfin bon, là faudrait vite que ça finisse. Mais bon, faudrait qu'il y ait un petit coup de chance, quoi.
Je vois. Nous, tu vois, on dit carrément à nos entrepreneurs, couvrez-vous pour une année de crise. Dites-vous que ça va durer un an, qu'il y aura plus d'investissement, plus de banques. Plus d'aide financière pendant un an et il faut que vous soyez prêt à ça, quoi. C'est un peu la situation qu'on essaye de dire. Donc, là, c'est pas tout rose.
En tout cas, j'irai voir ces petites vidéos sur School Lab pour voir comment tu nous vends ton entreprise, là. Mais je suis curieux. J'espère que tu es bien coiffé parce que la fois, t'avais les cheveux longs. Après, t'avais les cheveux courts. Donc, je m'attends à un nouveau style.
Là, j'ai une touffe à la Chris Waddle, un peu.
Oh putain, belle référence. Olympique de Marseille, début 90.
Ouais, écoute, c'était le joueur préféré de mon père, du coup. je ressors la référence. Sinon, à part ça, moi, je voulais te demander un petit peu, du coup, qu'est-ce que tu recommandes à tes élèves? Là, tu leur dis de s'entraîner au poids du corps, un peu avec du matos à la maison. J'étais très, très étonné d'entendre sur ton épisode de podcast sur Super Physique en s'entraîner en temps de crise que vous n'avez pas mentionné le TRX. Moi, j'ai redécouvert le TRX et je suis fan de cet outil. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, j'en suis pas fan du tout. À part pour quelques exercices de rowing ou faire des pompes un peu en s'en servant comme des anneaux, tu vois, si on peut vraiment les mettre très en hauteur, mais sinon, j'en suis pas spécialement fan. Après, c'est simple, hein. j'ai, pour moi, je vais dire, ma conscience, ma morale, qui fait que je ne peux pas faire payer des gens pour leur faire un programme au poids du corps. Pour moi, c'est, tu vois, s'ils ont pas d'élastique, pas d'haltère, zéro, rien de rien. Et c'est pour ça qu'on a fait le podcast Superphysique, programme de la crise, pour donner un programme, en fait, en disant, bah voilà, je dis à mes élèves qui ont rien de rien, faites ça, je décale votre suivi, sachant que les gens, en général, mes élèves s'engagent pour minimum 6 mois. Donc voilà, je dis, bah, on décale de nombre de semaines ou en attendant que les salles vont réouvrir. Et puis voilà, mais parce que je peux pas faire payer, en fait, ça me, pour moi, c'est de l'escroquerie, c'est du charlatanisme, quoi. La plupart des gens, non, mais pour se transformer physiquement, et il faut être sérieux, au poids du corps, ils vont pouvoir limiter un petit peu la casse, mais il va y avoir de la casse. Et quand ils vont reprendre, ils vont le sentir. Alors, tu maintiens plus facilement tes muscles que ta force, mais plus ça dure, plus c'est compliqué. Et puis s'entraîner au poids du corps, c'est marrant. Mais si t'as vraiment rien de rien, c'est quand même assez limité. Après, j'ai beaucoup d'élèves qui ont du matériel chez eux, donc qui ont commencé en home gym. Et d'ailleurs, bah, je me suis pas mal positionné, si t'as suivi, sur le home gym. J'ai fait 2 énormes articles sur rudycoya.com et 2 grosses vidéos sur YouTube. Ouais, oui. Donc une vidéo qui a bien marché, l'autre pas trop. Mais je me suis bien positionné là-dessus. J'ai vraiment fait, j'avais beaucoup de choses à dire parce que je me suis entraîné en home gym pendant des années. Et je considère en même temps le Super Physique Gym comme un home gym. Dans le sens où c'est d'abord pour moi. Et après, ceux qui veulent venir, on en discute. mais ouais, ouais. Donc en fait, c'est ça. Essayer de maintenir, mais c'est sûr que ça vaut pas l'entraînement. Après, ouais, le TRX, c'est pas un truc dont on est fan, et puis beaucoup de personnes n'en ont pas. Comme aujourd'hui, beaucoup de commandes sont un peu bloquées. Tu vois, sur Amazon, par exemple, ils ont bloqué toutes les ventes de livres que expédiés. On peut encore acheter des livres d'occasion ou des Kindle. Je me suis mis au Kindle, d'ailleurs, en cette période. Mais ouais, donc t'as plein de trucs. Les gens qui commandaient du matériel sur Amazon, bah, ils sont plus livrés. Decathlon était en rupture. Donc voilà, moi je préfère donner un programme un peu générique à tous, parce que de toute façon il n'y a pas beaucoup de possibilités de personnalisation. Et puis dès que ça va être, on va être déconfiné, bah reprendre en adaptant ce qu'on faisait, en reprenant doucement, etc. Parce que l'une des erreurs qui va se passer pour beaucoup, c'est qu'ils vont vouloir reprendre trop vite, ni vu ni connu. Et puis là il va y avoir des blessures, là il va y avoir des surprises auxquelles ils s'attendaient pas, parce que tu t'arrêtes là, ça va faire quoi, un mois le 15 avril, je crois qu'on sera confiné, un truc du style. Donc t'arrêtes un mois, tu dis bon, ok, si c'est prolongé, t'arrêtes 6 semaines, 2 mois, bah c'est simple, hein, d'expérience, si tu t'arrêtes un mois, il te faut au moins 2 mois pour revenir, donc ça te fait 3 mois, quoi. Donc faut que tu repartes 2 mois en arrière de ce que tu faisais, et encore la première semaine, tu vas avoir des courbatures horribles, tu vas déguster, et le pire ce sera aux jambes, aux pecs, vraiment là, t'auras du mal à marcher, à écarter les bras. Mais donc ouais, bah, en fait c'est comme ça que je fonctionne, parce que ouais, comme je te disais, je peux pas faire payer pour un programme non personnalisé qui ne va pas dans le sens des objectifs qu'on s'est fixé avec la personne, en fait.
Ah mais c'est marrant ton positionnement. Bon, alors moi je suis pas du tout le bon élève, en tout cas en cette période. Je sais que je suis un grand fan des cycles de progression et que j'ai lu ce que t'as, tout ton travail, et que je le suis avec assiduité. Mais là en ce moment, moi je me suis remis poids de corps à fond. Je fais des exercices un peu exotiques.
Ouais, mais toi tu vas dans un parc d'attractions dips un peu. Donc ouais. Voilà. Moi la plupart de mes élèves, tu vois, ils ont pas accès à ça. Aujourd'hui, normalement, t'es limité en temps de confinement à aller jusqu'à 1 km de chez toi. Donc les parcs, c'est foutu. Donc en fait, si t'as rien de rien, ouais, on met des petits défis. Bah y a Fanny que tu connais qui a mis des défis sur sa chaîne YouTube. Par exemple, faire 10 minutes de squat à vide, faire 5 minutes de pompe. Ok, voilà, tu fais ça. Mais pour le mec qui s'entraîne déjà depuis des années, bah ça va l'aider à maintenir, quoi, un petit peu. Mais faut pas que ça s'éternise, quoi.
Ouais, ça te fait pas prendre du volume, c'est sûr, mais ça a fait travailler d'autres filières musculaires, peut-être un peu plus l'endurance.
Oui, bah comme on disait tout à l'heure au rameur, comme tu le crames, c'est sûr que là, si je pouvais faire que du squat à vide, tous les 3 jours, tu fais 500 squats à vide, sans poids, sans rien, ah, c'est sûr qu'après, ça va moins brûler dans les cuisses, quoi. c'est sûr que là, tu développes ce qu'on appelle tout ce qui est ta filière aérobie, les mitochondries, la vascularisation, etc. Et c'est sûr qu'après, ça t'aide pour tenir des efforts de plus longue durée. Après, pareil, il faut pas que ça dure, parce que ce qui s'hypertrophie le plus facilement, c'est les fibres rapides, entre guillemets, les fibres de type 2. Je simplifie volontairement. Et si tu fais que des efforts un peu longs, bah, tu transformes tes fibres rapides en fibres lentes. Et la conversion inverse est quand même beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, pareil, tu vois, c'est toujours tendancieux, quoi.
Ah ouais. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que je devrais pas faire mes petits watts de CrossFit. Je peux te dire celui d'hier, j'ai fait 100 tractions, 200 pompes, 300 squats le plus vite possible.
Ouais, mais c'est connu ça. Je t'ai vu comment il s'appelle celui-là, ce watt là.
Il s'appelle Chelsea. En fait, non, celui-là, à l'origine, tu dois faire 1 miles de course à pied avant et 1 miles de course à pied après.
Oh putain, tu peux plus courir à la fin alors.
Ah ouais, le dernier tour, il est horrible.
Non, mais après ton truc, Bart, c'est toujours le même problème, c'est que tu sais pas, comme tu le disais, tu sais pas trop quels sont tes objectifs. Donc il n'y a pas de bien ou de mal.
Ouais, moi physiquement, c'est sûr que j'ai pas un physique de Golgoth, donc ça me fait pas chuter ou ça me fait pas exploser non plus, quoi.
Ouais, en fait, ça dépend quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire ou pas. Après, moi, en général, les gens qui me contactent, c'est pour transformer physiquement. C'est pas juste pour être en forme, c'est soit pour prendre un peu de muscle, soit pour perdre du gras, tout en prenant du muscle en étant bien. Donc c'est déjà des pratiquants de musculation. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne un peu sans objectif, qui veut juste voilà faire un peu de sport. Moi c'est pas du tout ça mes élèves et c'est pas en plus ce que j'aime faire. Donc mais bon, après ce confinement a quand même du bon parce que Moi j'aime bien trouver du positif un peu dans tout parce que ça laisse du temps pour faire autre chose aussi. Comme j'ai moins de demandes de coaching et que j'ai moins d'élèves entre guillemets, comme je disais, je lis des Kindle parce que les livres voilà sont plus livrés. Donc j'ai lu un bon livre que je peux te recommander, c'est La vérité sur ce qui nous motive.
Pas mal, ok.
Tu verras, si t'as le temps, tu pourras le lire. Il s'est fait assez vite, hein, mais c'était très très bien. Ce sera mon prochain Leadercast. Je sais pas quand est-ce que sortira notre épisode, mais ce sera l'épisode. On est le 5, donc l'épisode du 8 avril. Tu verras, je sais pas encore comment.
Voilà, ça s'est bien sorti, parfait.
Ok, donc ça me laisse le temps, tu vois, d'avoir des idées un peu plus d'articles. Donc là, les articles sur l'OMG, en temps normal, j'aurais pas pu les écrire parce que les articles de 4-5 000 mots, donc c'est vraiment des gros pavés. Et pareil, là, je sais pas si j'ai sorti ça ce matin, et j'ai une idée d'un nouveau concept, un peu de vidéo sur YouTube, pour enfin essayer de passer les 100 000 abonnés. Donc on va voir si ça fait quelque chose. C'est d'analyser l'entraînement des professionnels. Donc c'est un peu dynamique, car moi je trouve ça super, c'est un truc que je faisais déjà pour moi-même. Donc pareil, ça c'est des vidéos en fait, contrairement à ce que je faisais auparavant, ça me prend au moins 4-5 heures à faire la vidéo en fait. Donc là ça prend vraiment du temps entre trouver regarder les vidéos des mecs. Donc en trouver une sur laquelle il y a des choses à dire. Donc déjà tu regardes 3-4 vidéos, ça fait déjà une heure, t'en choisis une, OK, tu fais la vignette. Donc faut trouver une bonne photo du gars, une bonne femme. T'attendais pour une demi-heure à faire la vignette. Ensuite, tu découpes la vidéo du gars pour regarder que ce qui t'intéresse, sur quoi tu vas parler. J'écris le texte parce que je veux que ce soit vraiment nickel. Donc, encore une heure. T'enregistres le truc. Donc, ça, c'est rapide. Hein. Une fois que t'en es là, c'est 10 minutes. Et après, t'as le montage final, encore une heure. Donc, t'arrives à 4-5 heures. Donc, tu vois, pareil, en temps normal, c'est des trucs que...
Ouais, c'est du gros boulot.
C'est des trucs que je pourrais pas spécialement faire. Donc, ça permet de se concentrer sur autre chose. Et puis, j'en profite aussi. J'ai attaqué mon jardin. Je sais pas.
Ah, enfin.
Enfin, j'ai
dit l'inverse.
Je me suis acheté un motoculteur et donc je l'ai passé pour la première fois hier. Et je peux dire que c'est hyper dur. Est-ce que t'as déjà fait du motoculteur?
Ouais, j'avais déjà fait. C'est archi dur. Ouais. Ça te flingue.
Ça te secoue en fait. Et je m'attendais pas à ça parce que tout le monde me disait, oui, tu vois, le motoculteur, c'est beaucoup plus facile que la pelle, etc.
Ça fait les avant-bras,
etc. Et en fait, pas du tout. C'est à peine plus facile, hein. Et ça te crève. Hier, j'ai fait un bout de jardin, 45 minutes. J'ai l'impression d'avoir rien fait, quoi. Faut que je repasse tout à l'heure. Mais
et qu'est-ce que tu veux nous planter après, du coup?
Voilà. Après, on va planter. On va planter tout ce qu'on mange habituellement. Donc des tomates, de la salade, des courgettes, des carottes, des fraises, des framboises. On va essayer de mettre des trucs qu'on mange habituellement, voir ce que ça donne. Après, l'idéal, c'est que si ça fonctionne bien, pour l'instant, c'est les débuts, donc forcément, on n'est pas expert, même si j'ai lu plein de livres sur le sujet. C'est comme au début dans chaque activité, tu débutes, faut pas avoir peur de faire des erreurs, faut y aller, et puis t'apprendras des conneries que t'as fait. Si ça pousse pas, tu diras merde, qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Et c'est comme ça que t'apprends. Moi, je suis plus partisan de l'apprentissage sur le tas, de l'empirisme, sur la théorie. La théorie, c'est bien, mais il faut mieux la mise en pratique.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Le petit souci avec on va dire, avec le jardinage et le fait de de planter, soit de faire son jardin, c'est que les cycles d'itération sont un petit peu plus longs. Donc tu vois, si tu te plantes tout un hiver et que tu flingues tout, bah tu dois attendre un an avant de pouvoir planter ta variété. C'est ça qui est un peu
ah, peut-être que je mangerai rien cette année alors. Peut-être que ce sera la récolte zéro.
On va te voir tous mes grichons comme quand t'avais 20 ans.
Voilà, bon, ça m'étonnerait, mais bah de toute façon, après moi je mange beaucoup de légumes. S'ils sont là, je vais les manger. Après, je suis pas un grand acheteur de légumes, mais bon, c'est sûr que c'est cool si ça pousse, etc. Et si ça pousse bien, bah après, vu la taille du jardin, on pourra en faire vraiment un paquet, quoi, et peut-être même plus acheter des fruits et légumes au supermarché, quoi.
Ah, ça serait un bel objectif.
Ouais, ouais, bah peut-être, on va voir. On va voir si j'arrive à dompter ce motoculteur démoniaque.
Mais en tout cas, j'ai hâte que le confinement soit terminé pour venir goûter tes tomates, du coup.
Ouais, ouais, bah, a priori, il faut les planter. Donc ma copine m'aide pas mal là-dessus, hein, c'est pour moi qui fais tout, bien évidemment. Mais a priori, il faut les planter fin avril, début mai. Donc. Donc bon, bah on verra, j'espère qu'on en aura plein, parce que ça c'est un truc que je mange facilement. Mais tu vois, le confinement ça permet de faire, comme t'as plus de temps, tu fais d'autres choses qu'en temps normal tu ferais pas. À chaque fois je me disais, je vais faire le potager, on va faire le potager, on va faire le potager. Puis en fait j'ai toujours un truc à faire. J'ai tué un truc, j'écris quelque chose, tac tac. En fait j'arrive toujours à m'occuper en fait. Donc et là bah, c'est pas que j'arrive pas à m'occuper, mais comme j'ai un peu plus de temps, je me dis bah tiens, comme j'arrive à chaque fois, j'explique dans mes podcasts qu'on a 4-5 heures d'attention maximum par jour. Bah, une fois que tu as fait tes 4 à 5 heures d'attention psychologique par jour, bah il faut bien t'occuper de ta journée, vu qu'elle fait à peu près 15 heures. Tu as 4-5 heures qui sont faites, tu manges un peu, voilà, ça va te prendre peut-être une heure dans la journée. Il te reste 9 heures à occuper, donc bah tu fais des petites activités comme ça, le jardin, lire un peu, regarder une série.
Ouais. Non mais c'est marrant, moi j'aime bien ce que tu dis, tu vois, faut essayer de trouver des activités positives et essayer de trouver de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce que là moi franchement je sais pas pour toi, mais en temps de crise parmi mes amis ou les gens autour de moi, je vois vraiment qu'il y a deux types de personnes, quoi. Il y a ceux qui se réfugient derrière leur petite série et qui regardent Netflix et qui passent leur temps à regarder la télé et à se dire que c'est la fin du monde, et puis t'as tous ceux qui essayent de plutôt se dire bon bah ok, ça va durer un mois et demi, il faut serrer les coudes, serrer la ceinture, essayer d'être positif, parce que de toute façon être négatif ça fait pas avancer le schmilblick, et en profiter pour apprendre de nouvelles choses, lancer de nouveaux projets ou essayer de planifier un petit peu la suite. Je sais pas comment tu le vois toi autour de toi, mais moi je vois, il y a vraiment deux catégories de personnes à ce niveau là
oui oui, ah non, mais c'est sûr que là, après c'est le français moyen, j'ai envie de dire, qui est comme ça, qui est à se plaindre, à ne jamais être content, à déjà voir que le négatif en temps normal. Alors là, dans ces temps-ci, bon, bah, c'est super négatif. Mais bon, ouais. C'est une question d'entourage. Moi, tous ceux que je côtoie, entre guillemets, bah là, je ne côtoie pas grand monde, hein, bien évidemment. Mais comme moi, je véhicule du positif, en fait, j'ai souvent des retours positifs. Comme les gens ont plus de temps, cette semaine, j'ai reçu pas mal de messages sur leadercast.fr, de remerciements, des longs messages, etc. Donc en fait, comme j'entretiens déjà mes ondes positives tout seul, bah les gens qui m'en envoient en plus, ça me donne encore plus de motivation, on va dire, à entreprendre. Donc, moi, je suis toujours de ce côté positif. Qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, là, avant que tu m'appelles, j'ai une idée, je me dis, tiens, je vais faire ce truc-là, etc. Ça va me prendre du temps. Mais bon, ça trouve que j'aurai le temps de le finir avant la fin du confinement, sait-on jamais, mais ça m'étonnerait. Mais en fait, ouais, moi, je suis quelqu'un d'actif. Donc, je sais pas être... Je sais pas m'arrêter, en fait, m'arrêter c'est difficile. Ou alors si je m'arrête, c'est que je suis fatigué, je vais faire une sieste et une demi-heure après, hop, je suis reparti. Mais je sais pas faire. Et après se plaindre, bah c'est pas du tout ma philosophie en fait. Oui, je peux me plaindre en rigolant, mais ça peut pas durer. ça peut pas durer. Ouais, je me plains, voilà. Mais c'est pas mon truc. Mais c'est la plupart des gens aussi qui se plaignent. C'est français, hein, se plaindre. Donc bon, je suis pas trop étonné de tout ça. Après, il y a très très peu de gens positifs dans le monde, j'ai envie de dire. Après, ça dépend des pays, des cultures, etc. Mais c'est vrai que, je sais pas à toi à Paris comment c'est, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sourient dans la rue en temps normal? J'ai pas l'impression, pour habiter en région parisienne, tout le monde fait la gueule, tout le monde est crevé, tout le monde a des cernes. tout le monde a envie d'être ailleurs, quoi.
Ah bah ça c'est clair, ouais, c'est clair que c'est pas la joie, et surtout en ce moment là tu vas là le supermarché à côté de chez moi là, je suis sorti hier, il y avait 200 mètres de queue parce que il y avait 100 personnes qui étaient devant le magasin qui étaient
d'un
mètre. Ah ouais, ouais, vu que les gens sont espacés et que en fait les magasins, il y a plein de magasins qui disent plus maintenant il y aura jamais plus de 10 personnes dans le magasin parce que comme
ouais,
ça
mais c'est des petits magasins alors vraiment tout petits.
Ouais, mais même un tu sais une supérette ou un petit supermarché, ouais, bien sûr, tout est pris d'assaut.
Ah ouais, à nous à Annecy, c'est pour ça.
Tu vois, il y en a plein qui ont fermé. Ah ouais. La boulangerie à côté de chez moi, elle a fermé, parce qu'elle me disait, moi je vois 100 clients par an, 100 clients par jour. Elle me dit le risque que je l'ai à Paris, parce qu'à Paris c'est quand même le foyer du virus. Tu vois, elle me dit bah moi je vois, en plus je touche de la monnaie à longueur de journée, les gens ils parlent, machin, j'en vois 100 par jour, la probabilité que je le chope le truc, il est énorme. Du coup bah les gens se barricadent. Je sais pas si t'as vu à Paris les supérettes, les mecs mettent du cellophane devant leur caisse pour parler à tout le monde, tout le monde met des masques. Et la dernière fois, attends, tu vas mourir de rire, j'étais en train de conduire, j'ai amené mon fils pour aller voir la pédiatre, tu vois. Et là, j'arrive, je passe, je roulais vraiment pas doucement, tu vois, 20-30 à l'heure et tout, avec mon fils. Et là, il y a une femme qui se jette sous mes roues. Et je fais, mais c'est quoi ce bordel et tout? Elle s'est vraiment jetée sur la voiture. Elle avait la main sur le capot et tout. Du coup, je me suis arrêté. Et en fait, j'ai compris qu'elle était, elle cherchait à éviter un mec. elle marchait sur le trottoir. Il y avait un type qui lui est passé à côté et elle a fait un bond de 2 mètres pour éviter le mec. Enfin, il y a une espèce de climat de psychose qui est.
Oui, non, mais il y a une petite. Après, nous, sur Annecy, car moi, je suis pas Annecy même, hein, je suis à côté, comme tu le sais. Mais en fait, tu vois, hier, j'étais au casino faire mes courses, donc je voulais pas aller au gros Auchan, etc. Je me suis dit, bon, j'ai encore du stock, etc. J'allais au petit casino en bas de chez moi. Ouais, on était quoi? On était 4 dans le magasin. Il y avait personne. Hein. Ouais. On était peinards et tout. C'est pour ça, et j'arrête pas de le dire, mais mieux vaut habiter à la campagne. Hein. Peut-être que ça va faire prendre justement à beaucoup de personnes que les villes, c'est quand même la merde. En cas de crise, c'est quand même. Mais même en temps normal, car moi je préfère la tranquillité, aller marcher, bah tu te souviens les petites marches qu'on faisait, que je t'emmenais, ces marches initiatiques dans le noir.
Ah, quel bon souvenir, dans le froid.
Voilà, dans le froid. Et donc non, là, nous, car aux alentours d'Annecy, on s'en rend même pas compte. Après, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, je vais pas souvent sur Annecy, etc. Mes trajets sont assez sommaires, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de psychose ici que ce que tu me racontes, hein. Nous, la boulangerie est toujours ouverte, le boucher est toujours ouvert, on achète encore de la viande chez le boucher tranquillement. Les restos, par contre, voilà, sont fermés, voilà, tous les trucs standards. Après, il y a beaucoup de restos qui font à emporter maintenant, pendant cette période.
Ouais, ouais.
Donc, tu peux encore te faire un cheat meal si tu veux. Tu peux te faire de la tchatchouka si tu veux. Mais ouais, nous, on n'a pas cette psychose-là, mais après. Voilà, je suis pas dans une grande ville. Moi, je suis entouré de petits villages. Et dans les petits villages, bah les gens, ça a l'air d'aller quoi. Hein. Ils sont chez eux. Voilà, ils respectent le confinement. Hein. Je vois pas grand monde quand je vais marcher dehors. Des fois, je vois personne même. Hein. Ouais, ça fait 2 jours que je vois personne, je crois. mais ouais, c'est. Ah bah faut fuir les grandes villes à la fin de tout ça. Hein. Faut aller ailleurs.
Ah bah, clairement. Là, tu vois, moi, j'ai demandé à toute mon équipe là de School Lab de rentrer chez eux. Ils sont tous rentrés dans leur famille et tout. Genre, vu que nous, on peut tout faire en télétravail, je les ai encouragés vraiment à rentrer et aller se mettre un peu au vert parce que là, Paris, c'est pas la joie. En plus, tu vois, en fait, il y a un problème dans les grandes villes aussi, c'est que c'est spécifique au virus, mais tu vois, on connaît tous quelqu'un qui l'a eu. Tu vois, on connaît tous dans notre entourage qui l'a eu.
Ouais, mais je pense même que ce que j'ai eu là, quand j'ai fait le championnat de France de rameur qui m'a couché presque une semaine, je pense que c'était ça en fait. Hein.
Peut-être.
Je pense que c'était bien avant qu'on soit alerté, etc. Mais je pense que
c'était à quelle période déjà? C'était quelle période?
C'était début février. C'était le 6, 7 ou 8 février. Et quand je suis rentré, etc., genre le lendemain, j'étais couché. Pendant 4-5 jours, j'étais couché. Et après, quand j'ai repris le cardio, j'avais du mal à respirer en fait. J'avais vraiment du mal à... et je sentais que dans les poumons il y a un truc qui n'allait pas en fait. Et ça faisait une toux hyper sèche, etc. Et tous ceux qui étaient à côté de moi, bah l'ont attrapé. Donc pareil, ils ont tous passé 3-4-5 jours au lit. Pareil, un peu mal aux poumons, un peu de mal à respirer, etc. Après, comme on est jeune et qu'on est plutôt en bonne santé, bah voilà, ça gênait pas pour faire. après ces 4-5 jours, ça gênait pas pour faire de la muscu, etc. Mais pour le cardio, j'étais emmerdé pendant 2-3 semaines, en fait. Je sentais sur le vélo, j'arrivais pas à bien respirer, quoi. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Sur le rameur, c'était pareil, etc. Et c'était bien avant tout ça. Donc, c'est sûr que, après, ce qu'il y a, a priori, voilà, c'est que si t'es en bonne santé, comme d'habitude, que t'as pas de malchance, entre guillemets, voilà, que t'essayes de faire les choses un peu correctement, bah, t'en guéris. Maintenant, ouais, quoi, avec la situation aux États-Unis, ce qui était prévisible, c'est que si t'es en mauvaise santé, que tu prends pas soin de toi, que tu fais pas de sport, que tu manges des saloperies, que tu dors pas beaucoup, que t'as une hygiène de vie un peu déplorable, ah bah c'est sûr, en fait, t'es déjà affaibli et t'as plus de chances de ne pas en réchapper. Et j'espère, pour ma part, que ça fera réfléchir beaucoup de personnes après tout ça, de se dire, ah, on a l'impression que ça va bien, mais finalement, ça va pas si bien. Finalement, on est un peu en surpoids, on fait pas assez de sport, on mange peut-être un peu n'importe comment. On va peut-être faire plus attention, un peu comme le fait de plus vivre en ville, mais plutôt en campagne, et se dire, voilà, se sensibiliser à, c'est pas si anodin que ça, quoi. Si on est déjà en mauvaise santé, il suffit d'un virus pour nous coucher complètement et qu'on n'en revienne pas. Donc, et là, aux États-Unis, ils prévoient, de ce que je vois sur les newsletters économiques, 100, 200 000, 300 000 morts, quoi. Bah, après, c'est l'un des pays où les gens, sont aux États-Unis, pour évacuer plusieurs fois. C'est simple, hein. T'as que les extrêmes. C'est soit t'es très gros, t'es vraiment en mauvaise santé, etc. Ou soit t'es en super forme. Sauf que voilà, t'as 95% de la population qui est en méforme complète et t'as 5% qui est bien, quoi, en gros. C'est ça?
Ouais, bon, j'irai pas jusque là, mais tu vois, si tu vas à New York ou à San Francisco, il y a quand même.
Ouais, moi j'avais fait Los Angeles, Las Vegas et Philadelphie. Et Philadelphie, bon là, putain, il y avait des gros, hein, là. Il n'y avait pas beaucoup de gens minces, hein. Là c'était vraiment après Los Angeles il y avait un peu plus, mais après on était en plus dans le milieu de la muscu, on était au Gold Gym à Venice Beach, donc okay, ouais. Pareil, on était à Santa Monica, tout ça, donc c'était la plage, les gens voilà font un peu plus attention, mais il y avait quand même beaucoup de gros, quoi, vraiment il y a beaucoup de personnes en surpoids, et le surpoids, même si voilà il y a une origine un peu génétique quand même, hein, l'hérédité, tout ça, il ne reste pas moins vrai, comme je dis souvent, qu'il n'y a pas d'obèses au Somalie. Donc, s'il n'y a pas d'obèses au Somalie, c'est pas compliqué. Ça veut dire que si vous êtes obèse, vous êtes en surpoids, c'est que vous mangez trop par rapport à vous.
Et que vous ne mangez pas bien, ouais, ça c'est clair. Bon, on est. je me remets pas de la blague.
c'est pas une blague, c'est la vérité en plus.
Non, c'est vrai, mais franchement, moi je m'inquiète, c'est vrai qu'on s'inquiète pour les États-Unis et tout, parce qu'ils ont un système de santé de merde, mais moi je m'inquiète d'autant beaucoup plus pour l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest, où ils ont justement des gabarits, où ils ont tendance à prendre très vite du poids, où il y a énormément de diabétiques.
Eux malheureusement, ils sont cuits, hein. Eux malheureusement.
Il y a même des types en bonne santé, mais qui sont diabétiques et tout, et là je pense que ça va être, là ça vient d'arriver, là il y a quelques jours, quelques semaines, les premiers cas au Sénégal. C'est le Sénégal que ma copine, elle connaît bien. Ça fait une dizaine de jours qu'il y a eu le premier cas. Les mecs, ils sont encore toujours en train de faire la teuf et ils se rendent pas du tout compte du truc. Et ça va faire un carnage. Là, ça va être.
Sûr. Moi, j'ai pas mal d'élèves justement qui sont en Afrique. Moi, j'ai pas mal d'élèves qui sont Gabon, Côte d'Ivoire, etc. Et eux, par contre, il y a déjà le confinement, etc. Ils ont déjà tout fermé. Mais de toute façon, c'est un virus qui va, dans la plupart des cas, sauf exception, voilà, c'est pas le mot que je veux dire, mais j'essaie de trouver un mot pas trop fort, mais qui va coucher et tuer les plus faibles, quoi. Donc, c'est malheureusement une sorte de sélection. Donc, c'est quand même. On n'était pas prêt à ça, quoi. Au début, tout le monde rigolait, etc. Mais bon, comme les Chinois. Je ne vais pas faire de généralisation, mais les Chinois ne disent pas les vrais chiffres à chaque fois. Chaque année, économiquement, ils nous annoncent des croissances à 6-10% et on sait très bien que c'est pas vrai. Ben là, c'est pareil sur les cas de coronavirus, ils n'ont pas dit ce qu'il en était vraiment. Ils n'ont pas dit combien il y avait vraiment de morts, etc. Ils ont essayé de pas nous alerter, de dire le truc, alors qu'ils auraient dû dire tout directement aux autres pays. C'est hyper sérieux, faut mettre le paquet tout de suite pour, en termes de masse, de lits, etc., de tests, faut foutre le paquet tout de suite. Et ils ont voulu la jouer a priori un peu plus solo. Et on voit où ça mène, quoi.
Ouais, après, tu vois, comparé au nombre de chiffres, enfin, moi je suis un peu surpris de la situation, mais comparé aux chiffres qu'ils ont annoncés et comparé aux mesures qu'on a prises pour y pallier, je pense quand même qu'on était au courant de ce qui se passait. Est-ce que tu as vu l'article qui est sorti récemment sur China Telecom? Ils ont fermé plus de 10 millions de lignes en 5 mois. 10 millions de lignes téléphoniques. Et,
oh, putain, 10 millions, tu veux dire quoi? 10 millions de morts, tu veux dire?
Bah, 10 millions de lignes téléphoniques ont été fermées dans les régions proches de Wuhan, ouais.
Oh, putain. Et alors,
du coup, c'est grave flippant. Je te l'enverrai l'article. Mais du coup, je pense qu'en fait, il y avait quand même des indicateurs économiques qui ont dû fuiter et qu'on a dû s'en douter que c'était vraiment.
Tu vois, moi, je pense que c'est février que j'ai eu, donc début février. Et nous, on n'a pas été en confinement. On a commencé à en parler début mars, tu vois. Et puis on n'était pas prêt. Alors que en théorie. T'es entrepreneur, il y en a peut-être pas mal qui nous écoutent, avec tout ce qu'on paye en termes de charges sociales, de sécu, etc., on aurait dû avoir le matériel nécessaire. Ça fait, je sais pas combien d'années, même quand j'étais gamin, c'était déjà le cas, les infirmiers disent on est en sous-effectif, c'est pas assez, etc. Et là, on se rend bien compte que le système français ne va pas. On voit bien que on n'est pas prêt au pire, et il faut toujours être prêt au pire, comme le dit, pour paraphraser Arnold Schwarzenegger dans son autobiographie. Quand il avait un projet, il s'est toujours, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Et nous, la France, on n'était pas prêt au pire. Il faut toujours être prêt au pire, même s'il faut pas trop y penser, mais il faut quand même être prêt au pire pour se libérer d'une certaine pression. Et là, on a vu que le système français, c'est la catastrophe, quoi. Tu te demandes, mais l'argent de la sécurité sociale, où sont les lignes, où sont les masques, où sont les tests?
Tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais, ben c'est, je sais pas si t'as vu les tests d'ailleurs, c'est des grands cotons-tiges de 20 cm à te foutre dans le nez, ça fait pas plaisir.
Ah non, mais ça va. Non mais j'ai vu qu'ils sont en train de bosser sur un test par rapport aux doigts là, un peu comme pour les. Voilà, bon bah ça ce serait déjà mieux, mais bon, c'est sûr que se mettre un coton-tige de 20 cm dans le nez. Non, mais, ouais, moi j'aime pas trop tout ça. Un mec me met un truc dans le nez de 20 cm, je dis oh là là. Faut vraiment se concentrer là, faut vraiment que je ferme les yeux, puis je vais le sentir, je vais vouloir péter le coton-tige quoi. Je vais pas vouloir qu'il me mette le coton-tige quoi.
Contraction des muscles du naso.
Ah mais je sais pas, comme ça.
Ouais, mais bon, en tout cas, c'est pas très drôle ce qu'on vit, mais bon, on va se dire que c'est bientôt terminé et qu'il faut, faut le voir de côté.
Mais en fait, ça ne peut terminer, c'est ça le truc. Ça ne peut terminer que suivant deux conditions, quoi, et qui sont un peu liées. C'est un, trouver un médicament en quelque sorte, parce qu'en France, on n'aura jamais assez de lits, voilà, il y a assez de personnel, donc en fait, on est déjà roulé de ce côté-là. Donc c'est trouver un médicament. Il n'y a pas de vaccin. Je me demande comment va se passer le déconfinement avec la, comme tu dis, la psychose un peu. Tu l'attrapes pas. Qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Ah ouais, c'est clair. Bon, je voulais aborder un autre sujet avec toi. Je saute un peu là. Tu vas me dire si t'as un petit point de vue sur la question. C'était par rapport aux JO et par rapport aux athlètes qui sont sponsorisés. Toi, tu connais un petit peu le sujet parce que dans le cadre de ton entreprise, t'as sponsorisé, il me semble, quelques athlètes pour les Jeux de Rio, c'est ça?
Ouais, c'était ça.
Ouais, et je me demandais qu'est-ce que l'annulation des jeux pour toi ça va avoir comme conséquence pour les entreprises qui les sponsorisaient et quoi comme conséquence pour les athlètes.
J'étais très surpris que les Jeux Olympiques soient décalés. En fait, moi je me disais que les sportifs de haut niveau en ces temps de crise auraient accès à du matériel et pourraient leur s'entraîner, qu'il y aurait une sorte de dérogation. Tu vois, hier je voyais un kayakiste qui disait il faisait de l'ergomètre là comme j'ai chez moi et qui disait voilà, je peux pas aller sur l'eau, etc. Et d'autres lui répondaient, mais attends, c'est bizarre, il y a personne sur l'eau, tu devrais pouvoir aller sur l'eau tout seul, quoi. Et nous, à Annecy, ce qui s'est passé, il y a une fille qui s'est fait arrêter justement sur le lac, une fille qui habitait autour du lac d'Annecy, donc il y a un ponton à elle, qui est avec sa maison, elle est partie faire du paddle et ils l'ont arrêtée. Ils l'ont mis une amende alors qu'elle était toute seule au milieu de l'eau, quoi. Donc, ça va quand même trop loin. Ça va, à mon sens, ça va beaucoup trop loin. Donc moi, je me disais que les sportifs de haut niveau, en fait, auraient pu continuer à s'entraîner, tu vois, trouver des installations, des mesures pour qu'ils puissent continuer, en fait. Et donc là, j'étais surpris que ce soit pas le cas. Deuxièmement, au niveau des sponsors, bah malheureusement, comme je disais tout à l'heure, il faut que l'État trouve des solutions pour que les entreprises soient dans le même état qu'avant la crise, en fait. Si elles sont pas dans le même état qu'avant la crise, c'est sûr que les sponsorings vont être compliqués. Après, si c'est des grosses entreprises comme Red Bull, par exemple, ou Nike, etc., eux, ils s'en foutent. Ça marche du tonnerre. Là, les ventes en ligne marchent encore. Nous, on a la boutique Superphysique où on propose des compléments alimentaires. On livre toujours, ça marche. Voilà, ça continue. Ah ouais. Donc, tout ce qui est en vente en ligne, ça marche. Donc, toutes ces marques-là, ça va. Mais pour la petite entreprise, tu vois, par exemple, comme moi, si demain je devais sponsoriser un athlète, bah, je me dis, voilà, je perds 40% de chiffre d'affaires. Attends, 40%, c'est presque la moitié. Est-ce que je continue à sponsoriser? Je me dirais, je parlerai avec la personne, je dirais, bon, est-ce que je me serre les dents? Qu'est-ce que je serre la vis sur moi pour sponsoriser la personne ou pas? Je pense qu'on trouverait un compromis, tu vois, un 50-50. Mais c'est sûr que c'est... Et puis ça repousse d'un an. Ceux qui étaient là, qui disaient c'est mes derniers Jeux Olympiques, etc. Tu viens toi à la retraite, etc. Tu te rends compte, ils reprolongent d'un an. Oh putain, c'est psychologiquement c'est dur. Surtout quand moi je suis pas mal les kayakistes, qu'on fait tous des stages en Australie, en Espagne, en Floride, etc. Qui étaient prêts quoi, qui étaient prêts, qui étaient Maxime Beaumont que t'avais interviewé. En fait, là ils se disent merde, tu vois.
Ça va être dur.
Donc non, mais j'étais surpris de la décision. De, bah déjà qu'un qu'ils puissent pas s'entraîner, pas continuer, deux que ce soit décalé, et puis au niveau des sponsors, ouais, je le sens pas trop. Ça dépend qui sponsorise. Et les grosses entreprises, il y aura pas de souci, mais toutes les petites entreprises, si des mesures sont pas prises par l'État, elles pourront pas continuer à sponsoriser, elles vont se recentrer sur elles-mêmes. Parce que ces histoires d'impôts, tu donnes de l'argent en général pour défiscaliser, donc tu fais un bon geste, etc. Mais en même temps, il y a cette histoire de défiscalisation. Si t'as plus rien à défiscaliser ou presque. Bah en fait de l'argent pas personnel mais presque tu vois.
Donc, ouais je vois ce que tu veux dire.
Ça fait pareil.
Non mais en plus moi je pense que va y avoir de la casse aussi au niveau des athlètes parce que tous les athlètes un petit peu on va dire de second plan, tu vois, pas ceux qui dont on sait que en individuel ils peuvent pas toucher les podiums tu vois et ceux qui vont tu vois ceux qui vont se qualifier au JO mais dont on sait selon les performances mondiales qu'ils vont pas être médaillables ou même peut-être même pas arriver dans les finales des compétitions généralement c'est des sportifs qui sont soutenus par des petites marques hein, ou des plus petites entreprises et je pense que là là ça va être très compliqué déjà que c'est des sportifs en plus qui se serrent la ceinture tout au long de l'année qui gagnent quoi à peine plus qu'un SMIC et sachant qu'ils ont quand même beaucoup de charges beaucoup de frais pour pouvoir s'entraîner que ça soit dans les stages là avoir de la nourriture de qualité, pouvoir se payer des petits déplacements pour les compètes et tout. Moi, je pense que va y avoir, ça va être dur, mais que va y avoir certains sportifs qu'on va voir annoncer la fin de leur carrière malgré tout. Hein, ça c'est sûr.
Parce que,
il y a beaucoup de sportifs qui profitent des JO aussi pour faire un peu le plein financier pour un an ou deux quoi tu vois mon troisième épisode avec Jérémy Azou le rameur là il me disait les JO c'est 50 000 euros si tu les gagnes en avion et il me disait lui il avait économisé pour que ça puisse lui durer plusieurs années quoi tu vois et donc en plus les sponsors en plus de ce qu'il y a tu vois donc je pense que ceux qui sont un peu au second plan ça va être très compliqué ce qu'on voit pas beaucoup.
Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je regrette un peu ce système à la française où en fait c'est pas l'État qui aide au mieux les athlètes, mais ce sont les sponsors un peu extérieurs. J'aimerais bien que ce système soit revu pour donner justement plus de liberté, moins de pression à ces athlètes, parce que souvent ce qui différencie le premier du 20e, c'est presque rien, quoi. Alors des fois, voilà, il y a vraiment quelqu'un qui survole, mais c'est pas grand-chose. La dernière fois, je relisais l'autobiographie de Rafael Nadal et lui disait la seule différence qu'il y a en fait à l'entraînement il n'y en a pratiquement aucune, il dit c'est en match, c'est l'aspect mental et pour être libéré mentalement, pour être dans le flow, etc., c'est faut que derrière tout aille quoi. Et là c'est sûr que le système qu'on a avec des sponsors extérieurs, etc., fait que c'est pas propice à avoir la tête libre et à pouvoir se concentrer ou à être dans le moment présent, c'est le mot juste pour se libérer et être au mieux de ses capacités. Donc ouais, il y a beaucoup de, comme tu dis, d'athlètes qui sont pas sur le devant de la scène, qui vont malheureusement prendre une tôle, quoi.
Ouais, ça va être compliqué. En tout cas, on croise les doigts pour eux. On a abordé un petit peu tous les sujets que je voulais aborder. Est-ce que toi, tu avais des petites choses à dire, des petites humeurs à nous partager pour clôturer ce petit rendez-vous téléphonique?
Ouais, j'espère que déjà tout le monde se porte bien. Sincèrement, j'espère que vous prenez soin de vous et que si c'était pas le cas avant cette crise, ce le sera demain, ce le sera même à partir d'aujourd'hui, que la santé, c'est quand même le plus important. On n'arrête pas d'en parler, etc., mais j'espère que cette crise fera prendre conscience à beaucoup que c'est pas des conneries, quoi. C'est pas des conneries qu'il faut et qu'il faut arrêter de bouffer des plats surgelés, etc. Mon associé me disait que cette semaine, justement, assez incroyable, après la première semaine où les gens avaient dévalisé les rayons de pâtes et de PQ, là, c'était les plats surgelés. Les plats surgelés. Ouais. Les gens ne savaient plus cuisiner. Et j'ai vu qu'en Thaïlande, il y a eu un autre truc en Thaïlande, c'est que comme t'es habitué à manger dans des petits tuk-tuk, les petits boui-boui, là, les petits camions, là, et ben en fait, il n'y a plus d'œufs, en fait. Tous les gens, comme ils ne savent pas trop cuisiner, ils ont acheté des œufs pour manger des œufs. Donc, c'est marrant cette histoire d'œuf. Tout ça pour dire, ouais, voilà. Après, moi, je suis toujours assez positif. J'essaie de me concentrer sur ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire en ces temps pour essayer de continuer ma mission, ce qui m'anime, etc. Et je pense que c'est aussi, ça peut être une bonne période pour chacun, pour faire le point justement, vu que le temps s'est ralenti et que vous n'êtes plus à courir après le temps, faire le point sur ce que vous désirez vraiment dans la vie. Est-ce que ce que vous faites habituellement vous convient? Est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce que vous n'en faites pas trop? Est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce que vous voulez faire? Est-ce que ça vous épanouit? Pour peut-être changer de vie, à ce retour à une vie normale progressivement, hein, bien évidemment. Mais ça remet en perspective le fait qu'on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Et c'est à chacun de décider comment il veut la vivre et pas à autrui de nous dire tu dois faire ci, ça ou ça. Surtout que là, on se rend bien compte que ça protège absolument pas. Voilà.
Exactement. Bon, bah écoute, on va clôturer sur ces belles paroles. Je suis tout d'accord avec toi. Je te fais une grosse bise, Rudy, et puis on se dit à bientôt. Merci.
À bientôt. Et puis en forme, ça roule, bah, pas de souci.
Salut.
Salut.